Eh bien, bonjour à chacun. Bienvenue dans cette maison de Dieu. Bienvenue particulièrement à Emmanuel Veufray, de Porte Ouverte, qui nous apportera quelque chose tout à l'heure. Je veux aussi dire bienvenue à Sylvain Dupertuis, qui est de retour, après une longue absence. Sylvain, retour à la maison, sois le bienvenu. Mon ami et mon frère, notre ami et notre frère, il était au Laos pour tout un service là-bas, dans le cadre de cette mission au Laos. Bienvenue aussi à Anita, je l'ai vue, Anita, qui nous vient de temps en temps et elle nous rejoint. Elle a été dans cette église pendant bien des années, on a fait le coffee bar ensemble, etc. Alors, bien sûr, ça remonte, ça commence à remonter, mais bienvenue Anita. Bienvenue à la maison, et à tous, bienvenue à ce culte et à ce temps de repas qu'on partagera ensemble. Cette communion avec les autres frères et sœurs dans le monde qui partagent la même espérance en Jésus-Christ que nous, et surtout en communion avec Dieu par notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est libre. Liberté, qu'est-ce qu'on n'a pas fait en ton nom? C'est libre de nos mouvements, libre dans nos pensées, dans notre tête, libre, j'espère pour chacun d'entre vous, de venir ce matin, ou non, sans encombre, sans se cacher, tête haute, sans honte, que nous sommes venus ce matin rencontrer notre Seigneur qui nous attend ici. Je ne sais pas si nous mesurons quel est le privilège que nous avons de vivre cette liberté par rapport au monde, mais aussi cette liberté en Christ que nous avons entre nous. Bien sûr, on peut se demander pourquoi ? Pourquoi nous avons l'avantage de cette liberté ? Et qu'est-ce que nous en faisons? On peut aussi se demander que c'est jusqu'à quand nous aurons cette liberté de nous réunir, de profiter de la démocratie vécue dans notre pays. On remarque quand même que la laïcité mal comprise nous gêne des fois un petit peu aux entournures. Mais enfin, quel privilège de vivre ensemble, librement, je le répète, ce royaume de Dieu qui s'est approché des hommes en Jésus-Christ. Dans notre monde, sur notre planète Terre, qu'on dit que c'est un village maintenant, tous les chrétiens, et vous le savez, ne sont pas libres de vivre leur foi, n'ont pas notre privilège de venir au culte simplement le matin. Et surtout, pour beaucoup d'entre eux, publiquement en tout cas, ils doivent taire leur foi afin de ne pas être persécutés. Ils vivent ce que Jésus nous transmet en Matthieu 10, au verset 26, que je vais vous lire. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour leur servir de témoignage. À eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ces frères et sœurs qui vivent ces difficultés, qui sont membres de ce corps de Christ comme nous-mêmes. Et quand un membre souffre, les autres membres souffrent aussi. Nous voulons, ce matin, tout spécialement, être en communion avec eux. Nous désirons partager, comprendre, connaître ce qu'ils vivent et compatir à leur souffrance, la souffrance de cette Église dite persécutée. Vivre ce dimanche mis à part, dit de l'Église persécutée. Et d'avance, merci à Emmanuel qui nous guidera dans cette démarche. Ce matin, nous allons vivre un tout petit peu différemment. Nous allons entrer dans la louange et ensuite, nous passerons de cette louange à la Sainte Cène. Ensuite, Emmanuel nous apportera ce qu'il a à nous dire sur ce qu'il a sur le cœur. Sois tout à fait libre, Emmanuel, de nous apporter ce que tu désires. On va prier. Seigneur Jésus, c'est la reconnaissance qui nous habite ce matin, car effectivement, nous ne craignons rien de la part des hommes. Ici. Mais Seigneur, dans cette reconnaissance, nous voulons souffrir aussi avec ceux qui souffrent ce matin, pour te rencontrer, qui doivent faire des efforts, se cacher. Nous voulons les bénir en ton nom, en croyant que cette Église sont membres de ton corps et que tu les envoies aussi comme témoins là où ils sont. Nous les bénissons. Oui, reste et demeure avec nous. Nous voulons te remercier pour ta présence et que dans ce que nous vivons les uns les autres, nous puissions t'adorer, te louer, te bénir encore ce matin et te dire, viens Seigneur Jésus, au milieu de nous. En ton nom, amen. J'invite l'équipe de louange à nous introduire dans la louange.
celui qui nous protège, de celui qui nous réconforte jour après jour. Et tout ce qu'on peut faire, c'est louer, c'est de dire merci, c'est de donner notre vie en retour, parce que c'est la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de confier notre vie entre les mains, Seigneur Jésus.
Yeah. Je sais l'amour le plus grand m'est donné.
Oui, alors les enfants peuvent rejoindre leur groupe d'école du dimanche. Nous vous accompagnons de nos pensées et que Dieu vous bénisse avec vos moniteurs et je crois un moment de chant particulier ce matin. Merci Xavier d'être avec moi, de ne pas me laisser seul.
Merci Paul Robert d'être là.
Après ce moment de louange, où nous avons gravi le parvis de l'adoration, nous sommes maintenant invités à entrer dans la salle, j'allais dire la salle à manger, de la grâce, de la miséricorde et du pardon accordé à tous ceux qui se confient en Jésus-Christ et qui le proclament comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Oui, venez. Et c'est le Christ qui vous le dit, c'est pas moi. Venez, vous tous qui croyez en Jésus-Christ. Venez à la table, car tout est prêt. On va lire dans Matthieu, on reste dans Matthieu ce matin, chapitre 26, au verset 26, c'est Jésus qui présente la Sainte Cène pour la première fois à ses disciples. Quel moment ça devait être ? Je ne sais pas s'ils y comprenaient grand-chose sur le moment. Cependant, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après avoir chanté des cantiques, ils se rendent au mont des Oliviers.
Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, quelle histoire incroyable, quelle grâce incroyable, quel don incroyable, quel sacrifice inconcevable. C'est tellement grand ce que tu as fait pour nous tous, c'est tellement empli d'amour, ça change tellement tout. Parce qu'un jour tu as dit à tes disciples, je donne ma vie pour vous. Et nous sommes ici parce que nous croyons que tu es là, nous sommes ici parce que nous croyons à ton sacrifice, nous sommes ici parce que tu nous as fait cette grâce de nous donner la foi. Tu as fait cette grâce de nous rencontrer et en nous approchant de cette table, en nous approchant de toi, nous voulons te renouveler notre engagement. Nous voulons te dire à nouveau que oui, nous croyons en toi, oui, nous t'aimons, nous croyons que on vient au Père que par toi. Nous croyons que par ton sacrifice, tu nous accordes la vie en abondance ici et auprès de toi pour l'éternité. Seigneur Jésus, affermis nos cœurs. Nous voulons vivre auprès de toi maintenant et toujours. Béni soit ton nom pour le sacrifice inestimable que tu as consenti sur la croix. Amen.
Amen. Si une ou deux personnes veulent s'approcher pour nous aider à distribuer, c'est sympathique. Dans les plateaux, il y a du jus de raisin au milieu dans les gobelets roses. Et puis, je voulais dire aussi que sentez-vous libre, si quelqu'un veut dire une parole, un mot, exprimer une prière ou autre chose, eh bien, soyez-vous libre pendant ce moment de Sainte-Cène de prendre la parole et de le dire. J'ai ici une coupe, je passerai avec la coupe sur ceux qui le demandent en levant la main. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as envoyé Emmanuel ce matin pour nous parler de nos frères et sœurs et de ces pays, de ces endroits où nos frères et sœurs sont éprouvés. Seigneur Jésus, tu le bénis au milieu de nous et tu le remplis encore et toujours par ton esprit. Amen.
Amen.
À toi la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors certains me connaissent avec une autre casquette, j'en ai plusieurs. Alors c'est pas bien grave. Merci pour l'invitation. Je pense que vous avez répondu à l'invitation, je ne sais pas, mais merci pour ce culte spécial par rapport à la réalité de l'Église persécutée. Alors quand on dit Église persécutée, c'est un petit peu trop distant, hein. Une Église c'est vaste, mais par rapport à la réalité de nos frères et de nos sœurs persécutés, là ça devient un petit peu plus concret. Et peut-être je vais préciser ça tout de suite, c'est que l'Église persécutée ou les chrétiens ne souffrent pas uniquement le 12, le 19 ou le 26 novembre, hein, le jour où on fait un culte dans cette thématique-là. Hein, il y a deux dimanches qui sont officiels. Ils souffrent toute l'année, vous l'imaginez bien. Mais voilà, merci pour l'accueil, parce qu'il y a quand même une dimension d'une réalité qu'on a parfois tendance à oublier, même si les médias ont beaucoup parlé de l'Irak depuis quelques années, de la Syrie, de tout ce qui se passe là-bas. Peut-être certains sont déjà abonnés et reçoivent régulièrement des informations. Certains font des films. Je cherche le visage, je l'ai perdu, mais sur la thématique, beaucoup de choses se disent, se font, mais néanmoins la réalité devient de toujours plus lourde, toujours plus difficile. On estimait l'année dernière à 100 millions de chrétiens persécutés, aujourd'hui ça a doublé, probablement qu'ils ont un petit peu adapté ou élargi les critères pour dire que la persécution touche telle ou telle personne, mais 200 millions de personnes qui souffrent d'une persécution, allant d'une oppression, une difficulté à trouver un travail, à la mort. Donc la persécution, c'est large. Mais vous verrez ce matin que c'est même plus large que ce qu'on peut imaginer. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière ? Oui, c'est magnifique. Alors je vais vous expliquer le message. Hein. Comment ça va se passer ? Comme ça, vous n'avez pas de surprise. Je vais dire quelques mots. Il y aura quelques vidéos. Une qui va venir tout de suite sur la mission Portes Ouvertes avec Frère André, qui va raconter un petit peu l'histoire, l'historique. Et puis on entendra Frère André. Donc je l'ai pris avec moi ce matin. Vous avez un privilège d'avoir directement Frère André. Moi, j'étais dans son village il y a 2 ans. Mais voilà, malheureusement, toutes les équipes de Portes Ouvertes ne peuvent pas aller sonner à sa porte pour dire bonjour Frère André, comment vas-tu ? Et puis il ne va pas comprendre mon comment vas-tu. Et je n'ai pas encore la maîtrise de l'hollandais. Mais voilà. Vous aurez l'occasion de l'entendre, puis je vais reprendre quelques éléments. Et ensuite, un texte biblique tiré de l'Évangile selon Matthieu, absolument, le chapitre 5, qui nous, voilà Jésus qui parle de la persécution. Et ensuite, on va voir 2 autres vidéos qui nous parlent de l'Érythrée, cette réalité de ce pays. Alors, beaucoup, on sait que c'est compliqué, mais là, ça parle vraiment par rapport aux chrétiens, avec un temps de prière. Une 2e vidéo sur l'Irak, espoir pour le Moyen-Orient. On verra là aussi la réalité et les besoins qui sont mentionnés, on va avoir aussi un temps de prière. Comme ça, c'est clair pour tout le monde ? Pas de questions jusque-là ? Alors, on va regarder cette première vidéo, si elle fonctionne.
Something was a warning in my heart. And I said, what? Yes. But how?
Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 60 pays, apportant des bibles, des avons accompli de nombreux projets, grands et petits, et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organiser des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, plus de 100 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front avec ceux qui souffrent pour leur foi afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile.
I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions. And don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do.
Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée.
Voilà déjà tout un message. On va le reprendre. Le slide suivant, volontiers. Ça, c'est les différents pays de l'index mondial de persécution. Il y a 50 pays mentionnés là. C'est un index que vous connaissez, peut-être pour certains, qui détermine, qui définit un petit peu l'intensité de la persécution. Plus c'est foncé, plus c'est difficile. Mais il y a des pays qui ne sont pas dans l'index où Porte Ouverte est présent. Parce que, on a limité à 50 pays. Mais ça montre le défi. Beaucoup de pays musulmans, évidemment. Corée du Nord. Le principal depuis des années et des années, c'est toujours ce pays qui est en tête. J'ai quelques-uns de ces index qui sont disponibles tout à l'heure. J'ai plusieurs petits cadeaux pour vous, dont pour les dames, spécialement un calendrier de l'Avent. Donc c'est un petit cadeau. Il n'y a pas de chocolat, rassurez-vous mesdames, parce que ce n'est pas bon de manger du chocolat avant Noël. Mais vous avez chaque jour, une femme qui vit la persécution et vous pouvez prier pour elle. Jusqu'à l'avant, jusqu'au 24 décembre. Donc voilà, ça c'est juste à l'entrée, vous pouvez vous servir. C'est un petit cadeau qui est fait par le ministère pour les femmes de Portes Ouvertes. Alors la responsable m'a dit, prends-en pour l'église de Mérin. Alors j'ai obéi. Et mesdames, vous avez un petit cadeau ce matin. Les hommes, vous pouvez aussi prier sur la base du même calendrier, mais autrement il y a d'autres moyens. Voilà, on continue. Ça, c'est l'objectif de la mission, que le message de l'Évangile que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus hostiles. Ça, c'est ce que veut faire, frère André, ce que veut faire la mission Portes Ouvertes. C'est pas juste, on va apporter du soutien matériel, beaucoup, évidemment, on est obligé d'apporter en Irak beaucoup de nourriture, Syrie, etc., dans différents pays, il faut amener, parce que certains chrétiens n'ont pas accès au travail. Au Yémen, vous connaissez la crise, guerre civile actuellement, la distribution alimentaire est faite par les clans, par les familles, et les chrétiens sont exclus de cette distribution-là, parce qu'ils ne sont pas en lien, ils ont rompu le lien avec leur famille, ou leurs familles ont rompu le lien avec eux. Donc, la situation des chrétiens au Yémen est dramatique. C'est que l'aide humanitaire ne veut même pas arriver par eux, jusqu'à eux. Donc on voit qu'il y a une difficulté toute pratique. Mais néanmoins, l'objectif, c'est que des chrétiens puissent rester présents dans les pays où ils se trouvent, grandir, se développer et être témoins de la bonne nouvelle du Christ. Ça, c'est l'objectif. C'est que le Christ soit toujours présent à travers son Église dans ces pays-là. Les chrétiens en Irak, ils sont là depuis des siècles et des siècles, bien avant l'islam, et pourtant c'est compliqué. Maintenant, il y a le processus de retour, hein, d'où le relope que j'ai amené ici, espoir pour le Moyen-Orient. Il y a un désir que les chrétiens retournent, mais ils retournent dans quoi ? Hein, on verra le film tout à l'heure, qui présente la réalité, retourner dans un endroit où votre maison a été pillée, brûlée, où il n'y a absolument plus rien. Donc un défi très très concret, mais pour que l'évangile, les chrétiens soient là et que l'évangile soit annoncé. On continue. Que dit la Bible sur la persécution ? On continue le texte de Matthieu 5 qui nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est un tout petit peu bizarre hein, comme mot. Je pense qu'il y a une erreur de traduction. Il faudrait vérifier, mais théologien peut-être. Non, il n'y a pas d'erreur de traduction. Parce que c'est en effet parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est Jésus qui parle, il est sur, on s'est tiré du sermon sur la montagne, donc il est bien installé là-haut, avec quelques disciples, une foule un peu assez grande. On imagine une scène très très belle, des belles paroles. Hein, Jésus, je pense, était un bon orateur. Et voilà qu'il annonce ceci, ma définition du bonheur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous insultera. Alors, lorsque vous faites une queue de poisson à quelqu'un qui vous insulte, c'est pas là, dans cette catégorie-là. Hein. C'est à cause de mon nom, hein. À cause de Jésus. On est bien d'accord. Donc on mérite les insultes et puis on les subit, on les supporte. Mais là, c'est tout autre. Un bonheur lié à mon attachement à Christ. Et parce que je suis attaché à Christ, à ce moment-là, j'ai une difficulté. Alors nous, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de souci hein, dans notre réalité quotidienne, à Genève, en Suisse, en Occident. Il n'y a pas trop de difficultés, même si effectivement la laïcité nous pose quelques problèmes, spécialement à Genève, hein, puisque les adeptes du service Pâques savent qu'on ne peut pas annoncer l'évangile dans les rues de Genève officiellement ou légalement, avec une autorisation pour faire un événement, pour utiliser l'espace public. Donc il y a une restriction qui est là. On ne parle pas de persécution, on parle de restriction, mais quand même, il y a quelque chose d'un petit peu difficile qui s'exprime là, que ce soit les églises évangéliques comme les autres. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est lié propre aux évangéliques. Mais on voit que Jésus lie quand même le bonheur à la difficulté. Et dans notre société, dans notre culture, c'est jamais associé. On ne veut surtout pas de difficultés, on ne veut surtout pas de tensions. Hein, on veut aplanir, on accepte tout le monde et tous. Comme ça, il n'y a pas de problème, on est d'accord avec tout. Hein, et surtout pas faire de vagues. Hein, on va parler du Christ silencieusement, juste par notre attitude, parce qu'on arrive à l'heure et qu'on fait son travail, donc je suis témoin du Christ. Non, là vous n'êtes pas témoin du Christ, vous êtes juste un employé normal. Vous arrivez à l'heure, vous faites votre travail, c'est absolument ce qu'on vous demande. Puis certains patrons diraient qu'il faudrait que tu arrives un petit peu plus qu'à l'heure. Hein. Comme ça, tu es prêt à l'heure pour travailler. Hein. Il y en a, c'était un patron comme ça, je n'aimais pas trop. Il fallait arriver 5 minutes avant, c'était déjà tôt. Et puis moi, je ne suis pas du matin. Donc j'ai changé de métier, je suis devenu pasteur. Non, je plaisante. Non, mais les cultes à 10 heures, c'est génial. Voilà, je me sentais un peu oppressé. Quand c'était à 9h30. Donc quand j'étais pasteur, j'ai demandé à changer l'heure. Non, on a changé l'heure pour d'autres raisons. Mais vous voyez, la difficulté dans notre culture, Jésus parle de persécution, on parle de l'Église persécutée qui vit, elle, parce que je suis chrétien au Pakistan, je n'ai pas d'amis. C'est une jeune femme maintenant qui est responsable là-bas, qu'on a rencontrée il y a 10 jours, qui n'a jamais eu d'amis pendant toute sa scolarité, parce qu'elle était chrétienne. C'était la seule de sa classe. Et tout son cursus s'est fait de manière solitaire. Et nous, on est en mode panique dès que nos enfants n'ont pas 10 enfants, 10 amis très proches, parce qu'il faut qu'ils soient socialement intégrés dans l'école. Et puis, peut-être pas 10, mais au moins un ou deux. Enfin, on est un petit peu en difficulté dès que, oulala, mon enfant a... Et cette personne, qui s'appelle Anna, n'a jamais eu d'amis parce qu'elle est chrétienne. Et son frère aîné, qui a eu le même cursus, s'est fait agresser, a été attaqué, il a des marques sur son corps. Et lorsque sa sœur a découvert ces marques, ils lui ont inventé une espèce d'histoire pour pas qu'elle sache que c'était suite à une agression à l'école. Donc ça, c'est la réalité, évidemment, de l'Église persécutée, qui vit des choses extrêmement compliquées, qui est sous pression, constamment, avec un danger. Si on parle du Pakistan, aller à l'Église est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des attaques. En Indonésie, j'étais vendredi dans un groupe de jeunes, j'ai montré des photos de 3 petits-enfants, à peu près le même âge que ceux qui étaient devant, brûlés. Et pourquoi ils ont été brûlés? Parce que quelqu'un a jeté une bombe à essence dans l'église. Et un de ses enfants est décédé, et on voit des photos d'enfants, et là, on peut leur écrire pour soutenir ces enfants. Ça, c'est la réalité des gens qui vont à l'église. Là, c'est en Indonésie. Donc, vous voyez, et nous, on est là, si possible, il faut finir à l'heure, quoi. Hein, ce serait... Alors, je respecterai l'horaire, hein, c'est pas ça que je dis. Mais des fois, on est là à exiger des choses, alors que dans certains endroits du monde, aller à l'église peut risquer me coûter la vie. Et ils vont à l'église. Et ils y vont, attachés à Christ. Bien sûr, dans un contexte de minorité, alors quand on se sent un peu seul, on est beaucoup plus solidaire. Et ça me ramène à notre réalité à nous. Anna, du Pakistan, elle a dit à la responsable du ministère pour les femmes, qui l'hébergeait quelques jours, on prie pour vous en Occident, on prie pour vous, on sait que c'est compliqué. Et Anna, tu viens du Pakistan. Là où ton ami qui a été aussi attaqué et brûlé est décédé tout récemment. Tu as vécu toute seule ta scolarité, ton frère s'est fait agresser à l'école, etc., etc. Et on pourrait citer des dizaines et dizaines d'exemples dans différents pays. Et elle nous dit, on prie pour vous, Église d'Occident. C'est quand même bizarre. J'ai rencontré il y a quelques années une jeune femme qui vient d'Iran. Elle s'appelle Sarah. Elle avait 25 ans à l'époque, j'ai rencontré, elle donnait son témoignage parce que son père est pasteur en Iran et elle a décidé, son père fait un travail qui est plus large que ce qu'il a le droit de faire en Iran, c'est-à-dire qu'il parle la langue que tout le monde peut comprendre, donc certains musulmans se convertissent parce que la bonne nouvelle reste présente à travers ces chrétiens dans un endroit hostile en Iran. Et alors, elle est arrêtée, cette jeune Sarah, mise en prison. Elle est interrogée de manière avec un méchant gardien pour obtenir des informations au sujet du travail de son père. Il la garde quelque temps, elle est libérée, elle a l'opportunité de quitter le pays. C'est quand même quelque chose de traumatisant. Elle arrive en Suisse. Suisse allemande, c'est pas la meilleure des endroits, la meilleure des parties, mais on respecte, on bénit nos frères et sœurs, on les aime. Elle arrive là-bas et donc je la rencontre, ça fait peut-être 2 ans qu'elle est en Suisse et voilà qu'elle donne son témoignage. Et elle dit ceci, elle parle en anglais, elle est traduite et elle dit « Ah, pour moi il est plus difficile d'être une chrétienne en Suisse qu'en Iran ». Moi j'écoute la traduction et je dis « on se trompe là, s'il vous plaît hein, ». Il est bien plus difficile d'être chrétien en Iran qu'en Suisse. La Suisse, pays extraordinairement chrétien. Est-ce que je dois mettre des guillemets? Je ne sais pas. Hein? La Constitution, hein, au nom du Dieu Tout-Puissant. Hein, merveilleux. Genève, la ville de la Réforme, on a célébré les 500 ans tout récemment avec 5000 jeunes. La Suisse est quand même un pays extraordinaire pour la chrétienté. Hein? Ah oui, il y a une petite diminution, bon. Mais quand même. Et non, cette jeune iranienne, Sarah, a bien dit, il est pour moi plus difficile d'être chrétienne en Suisse qu'en Iran. Alors, est-ce que la persécution, elle est vraiment qu'au Pakistan, qu'en Iran? Et au fond, ce que nous dit l'Église persécutée, ses frères et ses sœurs, ils nous disent que la persécution, elle est aussi chez nous, mais d'une manière beaucoup plus subtile, et on ne se rend pas compte. Un vieux chrétien de Jordanie a dit « Dans quelques décennies, vous serez comme chez nous, en Occident, avec l'islam. Vos dirigeants politiques ne voient rien, ils ne comprennent pas. Dans quelques décennies, vous serez comme chez nous, une minorité. » Un vieux chrétien de Jordanie. Là-bas, il y a une certaine tolérance. La reine a des origines anglaises, donc les chrétiens sont relativement épargnés. Et puis, ils sont plutôt aisés, donc il y a une dimension aussi de... Voilà, on respecte un petit peu plus les gens aisés, peut-être. Mais on est comme ça, tenus, au fond, en Occident. La persécution, elle est là. Cette jeune Sarah disait, lorsque je me promenais avec ma Bible en Iran, certaines personnes m'arrêtaient et me disaient « Est-ce que c'est une Bible que tu portes ?» Et elle répondait « Oui, c'est une Bible. Est-ce que tu peux me la lire ?» Est-ce que tu peux m'expliquer la Bible? Promenez-vous avec des Bibles. 2, 3, 5 Bibles, 10 Bibles pour faire un peu sensation. Promenez-vous dans la rue. Peut-être la seule chose qu'on va vous dire, je peux vous aider à les porter, parce que c'est un peu lourd. Mais qui va vous demander? Il y a en Occident quelque chose, et c'est ce que Sarah disait, il y a une forme de honte à être chrétien. On n'est pas fier. On ne l'affiche pas haut et fort. On ne l'affiche pas. On arrive à l'heure et on fait bien son travail. Voilà, valeur calviniste, on accepte, on est tout à fait d'accord. Mais quelle est notre fierté? Certains chrétiens qui ont fui l'Irak, sur leur maison a été sprayé un symbole, le symbole Noun, qui est la lettre N en arabe, qui signifie haine pour Nazaréen, Jésus de Nazareth, ça identifie les chrétiens. Ils ont été identifiés, l'État islamique est arrivé à menacer ces familles, a dit soit vous vous convertissez, soit vous payez un impôt que personne ne peut payer, soit on vous tue. Alors ils ont pris une quatrième option, ils ont fui. Ils sont arrivés dans des camps, partout, au nord d'Irak, en Turquie, Jordanie, Liban. Et sur certaines des tentes qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont mis comme symbole? Le même symbole. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des Nazaréens. Ce même symbole qui les a fait fuir, qui les a menacés de mort, qui les a identifiés, ils l'affichaient haut et fort dans des camps, alors qu'ils avaient tout perdu. Vous verrez les maisons tout à l'heure, dans cette vidéo sur l'Irak. Donc, quelle est notre fierté de Jésus? Comment est-ce que nous portons en Occident cet amour du Christ, cette solidité? On va avancer le prochain slide, le suivant. Voilà. Nous avons besoin d'avoir du cran, du courage et de fortes convictions, et que l'appel de Dieu soit supérieur à notre propre vie. Ça, c'est tiré de la vidéo d'introduction. C'est une parole de frère André. Il y a quelques hommes de Dieu comme ça qui sont un petit peu au sommet pour moi, impressionnants par leur vie, par leur consécration. Cran, courage, fortes convictions. Et que l'appel de Dieu soit supérieur à notre propre vie. Est-ce que je suis prêt à véritablement suivre le Christ? À ne pas être aimé au travail, parce que je partage la bonne nouvelle. Avoir de temps en temps une petite remarque de mon chef, parce que oui, pendant les pauses, tu causes un peu trop. Parle de choses normales, s'il te plaît. Quel est notre courage? Quel est notre cran? Quelles sont nos fortes convictions? Qu'est-ce qui nous anime en tant qu'Église de Jésus-Christ maintenant? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que déjà ce soir, comme la plupart du temps, et je le dis pour moi, j'aurais oublié le message? Ah oui, il y avait un gars qui est venu, oui, sa chemise était sympa. Attends voir, oui, il a parlé de... Ah, attends, ça me revient. Hein? On est comme ça, hein? Enfin, je suis comme ça. Conviction, cran et courage. Frère André, il est fou, on est bien d'accord. Il était fou enfant. Hein, il y a eu la guerre en Hollande, l'envahisseur, les Allemands sont arrivés. Il y avait 11 ans. Il a dit « Je veux faire partie de la résistance ». Il a 11 ans, c'est un gamin. Alors il fait un exploit, il va voler une arme pour montrer à la résistance hollandaise qu'il est capable de faire des choses. Évidemment, quand il vole l'arme, ben, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des fusils, alors ils lui tirent dessus. Hein? Et puis il n'avait pas pensé qu'il pouvait lui tirer dessus. Alors évidemment, il n'a pas été touché. Il a amené son trophée et ils l'ont engagé dans la résistance hollandaise. Alors c'est sûr que, bon, il avait déjà une prédisposition à faire des choses assez incroyables. Si vous voulez découvrir son histoire, on a son livre là-bas, son témoignage. Mais un homme incroyable. Alors bien sûr, moi je me dis, ok, je suis pas à 11 ans, j'avais peur des araignées. Donc je me dis, j'ai bien progressé, je suis content. J'ai un peu moins peur des araignées. Mais néanmoins, quel est mon cran, mon courage et mes fortes convictions quant à mon premier amour, le Christ, que j'aime de tout mon cœur le dimanche matin que je chante? Qu'est-ce que je fais de l'appel qu'il a mis sur ma vie, des dons qu'il m'a donnés, du mandat qu'il m'a confié? Parce qu'il n'a pas confié le mandat à l'Église, parce que c'est une nébuleuse l'Église, c'est personne au fond, mais c'est chacun d'entre nous à qui il a confié une tâche, une mission. Et pour ça, il faut du courage, il faut du cran, il faut de fortes convictions pour tenir. Et c'est de ça que nous devons être animés en tant que chrétiens, en Occident, si nous ne voulons pas que dans quelques générations, l'Évangile ait quasi disparu. Alors bien sûr, il y a des grandes campagnes, que l'Europe soit sauvée avec tous des plans, et que je travaille, je passe la plupart de mon temps à ce que l'Évangile soit annoncé, et que bien sûr, on n'est pas éteint, on n'est pas sans action, mais on a besoin de faire plus dans notre cœur, dans nos convictions, à travers la prière, à travers des dons, à travers un engagement, à travers une lumière qui est non pas cachée sous un sceau, mais une lumière qu'on voit. Et lorsque j'arrive à l'heure et que je fais bien mon travail, à mon avis, je ne suis pas une lumière visible. J'ai besoin de faire un peu plus, de saisir l'occasion. Et il y en a beaucoup des occasions. J'ai invité ma voisine à un parcours Alpha Life, si je m'occupe aussi de ça, et je sonne pour les inviter, et là elle me dit, écoute, hier soir j'avais envie de me suicider, tu tombes bien, je veux m'inscrire. Alors elle n'est pas venue au parcours, parce que après son mari a décidé de la quitter, Alors on suit le comptable, ma femme a été la voir, prié ensemble, mangé ensemble, l'accompagner, elle dit, la prochaine session je veux venir, et elle est toute perdue. Il faut saisir des causes. Et là, j'ai dû faire un effort. Il était dimanche vers 17h. Et le dimanche vers 17h, c'est sacré pour moi. Je suis sur mon canapé. Je suis fatigué du week-end. Et c'était encore un week-end où j'étais occupé tout le week-end. Donc, j'ai dit, Manu, sors de ton canapé. Tu as dit que tu allais l'inviter. Alors maintenant, vas-y. Et j'y suis allé. Alors, même si ça n'a pas donné une conversion miraculeuse encore, j'ai fait mon job, j'ai fait mon petit bout. Je me suis levé de mon canapé, j'ai éteint ma télé. Et je suis allé chez ma voisine, spécifiquement pour l'inviter à entendre parler de l'Évangile. Et ça crée du lien. Et ma femme la voit, ils ont prié ensemble, et etc. Alors, voilà le message que j'ai à vous transmettre ce matin. Et j'espère qu'il sera oublié peut-être que demain. Peut-être. Alors, je ne sais pas quel est le prochain slide maintenant. C'est une vidéo. C'est ça. Attends, deux secondes. Reviens en arrière. Voilà. Maintenant, j'ai parlé, je nous ai parlé, parce qu'évidemment, ce message m'interpelle toujours, parce que j'ai toujours besoin de plus de cran, de plus de courage, de plus de conviction et de ce que ma vie ne soit pas la priorité, mais que l'appel de Dieu soit la priorité. Maintenant, on va faire un saut en Érythrée. C'est un des pays qui a été choisi pour le dimanche de l'Église persécutée. Vous verrez que là-bas, être chrétien, c'est compliqué. Je priais jeudi matin pour un frère, un pasteur, qui était mis en prison parce qu'il a fait une cérémonie de mariage. 5 ans de prison. Ensuite, il est sorti et un frère dans la foi, qui était en fuite, donc recherché, lui a téléphoné. Et la police a su que ce pasteur avait reçu ce téléphone, 6 ans de prison. Voilà. Donc moi, je veux que personne ne m'appelle. Et vous voyez un peu la complexité d'avoir un ministère pastoral en Érythrée. Vous faites un mariage et vous répondez à un téléphone, vous passez 11 ans en prison. C'est quand même compliqué. Et là, il ne faut pas, on ne joue pas. On ne joue pas aux chrétiens, hein. On n'est pas chrétien pour faire Voilà. Alors, on va découvrir un peu cette réalité de l'Érythrée. Et ensuite, on aura un temps de prière. Ce temps de prière, je vous propose que vous puissiez le faire spontanément, là où vous êtes. Alors voilà, je vais pas laisser 10 minutes pour le temps de prière, il va falloir y aller. Hein, on m'a dit que parfois c'était, on y va. Forte conviction, ok? On regarde cette vidéo sur l'Érythrée.
L'Érythrée, un pays d'Afrique de l'Est qui figure depuis des années sur l'index mondial de persécution de portes ouvertes. Un des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Certains disent de l'Érythrée qu'elle est la Corée du Nord de l'Afrique. Sous le régime totalitaire du président Afewerki, aucune organisation non enregistrée ne peut subsister. Il n'y a pas de liberté d'expression, pas d'opposition politique. Seules les églises catholiques, orthodoxes et luthériennes sont autorisées. Mais si leurs membres s'opposent aux directives, ils sont incarcérés. Les autres églises sont illégales. Elles ne peuvent pas s'enregistrer. Leurs membres sont accusés d'être des agents de l'Occident. Ce sont eux qui subissent la persécution la plus sévère.
Quand tu suis Jésus, tu es persécuté. Ta famille te laisse tomber, ton gouvernement te traque. Mais si tu renies Jésus, tu es libre.
Un jour, des policiers sont venus et m'ont ordonné de fermer l'église. Ils ont dit, il n'y a plus besoin d'église ici, ferme-la. J'ai répondu, je ne peux pas, les enfants de Dieu viennent ici pour adorer Dieu. Alors ils l'ont fermé de force et m'ont emmené en prison. Pour moi, ce n'était pas trop grave, mais quand j'ai su que ma femme enceinte était aussi en prison à cause de moi, pratiquement jusqu'à l'accouchement, ça a vraiment éprouvé ma foi. Ils m'ont dit, tu t'es toi-même mis en prison, tu as la clé dans ta main, signe ici, renie ta foi et tu es libre. C'est facile de signer un papier et de s'en aller, mais que veut dire suivre Jésus? On ne peut pas suivre Jésus uniquement quand tout va bien, on doit aussi le suivre dans les difficultés.
Une de leurs tortures favorites était de nous faire courir à pieds nus sur le sol brûlant. Ils nous tabassaient constamment. Les douleurs étaient atroces.
Les trois premières années, j'étais enfermé dans une cellule sous terre. Il n'y avait pas d'air frais pour respirer. J'ai réussi à recopier les chants de louanges et les versets bibliques dont je me souvenais. Mais un jour, ils ont trouvé mes notes. Alors ils m'ont attaché dehors sous un soleil brûlant. J'y suis resté tout un mois.
Nous avons appris une chose dans la persécution. Personne ne peut arrêter l'Évangile. Même s'il te prive de ta liberté, ta façon de vivre témoigne toujours de l'Évangile. Les problèmes, la détresse, la persécution attirent beaucoup de personnes à Christ. Malgré les difficultés, l'Évangile est toujours plus puissant. La foi chrétienne se propage.
J'ai été incarcéré avec un autre chrétien. Dieu nous a permis d'annoncer l'Évangile à 10 codétenus et à 2 gardiens. Tous ont trouvé la foi en Jésus. C'était vraiment un miracle. Ils n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile auparavant. Je voudrais qu'on prie comme Étienne a prié pour ses persécuteurs. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Priez pour l'Érythrée, pour les pasteurs, pour les autres chrétiens qui souffrent et sont persécutés. Qu'ils aient la liberté de vivre leur foi. Priez pour nos jeunes, qu'ils connaissent enfin la paix. Ils ont vu tant de guerres. Priez pour une solution aux problèmes que nous avons dans le pays. Je rêve d'une Érythrée où le peuple et ses dirigeants suivent leur sauveur, Jésus-Christ.
Voilà, je vous invite à la prière, que quelques-uns rapidement puissent prier.
choses à faire. Nous voulons te demander que tu nous aides à nous lever de notre canapé et d'aller pour évangéliser dans ce monde, dans cette ville. Amen. Amen.
Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'avais honte de toi, où j'avais honte d'annoncer ta bonne nouvelle qui m'anime, où j'avais peur de ce qu'en dira-t-on. Seigneur, prends pitié. Seigneur, merci pour tous ces courageux qui nous donnent l'exemple, qui marchent devant nous, Seigneur, comme des monuments, et qui nous donnent aussi du courage à nous de témoigner de la foi, Seigneur, alors que ça ne coûte rien du tout, Seigneur.
Merci Seigneur de nous permettre d'être dans un pays laïque où on peut chaque jour pratiquer notre foi et surtout aide-nous tous les jours par nos actes, par l'amour qu'on communique aux autres, à montrer ta force et que chacun puisse le faire de la façon dont il le ressent le mieux. Amen.
Amen.
Seigneur, tu sois à côté de tous ces chrétiens, de tous ces gens persécutés, de tous ces gens qui sont privés de liberté pour leur foi. Tu sois aussi aux côtés de ce gouvernement, Seigneur, afin qu'ils puissent craindre ton nom, se retourner, Seigneur, et reconnaître que la souveraineté et toutes choses sont à toi. Seigneur Jésus, oui, nous t'apportons ce pays tout spécialement devant toi ce matin. Amen.
Seigneur, ces chrétiens mérités, comme tous les chrétiens persécutés, réjouissent ton cœur. Donne-nous ce désir de réjouir ton cœur. Amen.
Amen.
Amen. On va regarder encore une deuxième petite vidéo sur l'Irak.
Des maisons endommagées, des commerces détruits. Des maisons endommagées, des commerces détruits. Après les combats contre l'État islamique, les villages de la plaine de Ninive, au nord de l'Irak, sont en grande partie détruits. Les combattants de l'État islamique ont ciblé les maisons des chrétiens et les ont incendiées et réduites en cendres. Cette vue de désolation a ôté à beaucoup de chrétiens irakiens le dernier espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie dans les régions libérées. De plus en plus de chrétiens quittent le pays. Ils ne voient plus d'avenir pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. La vie chrétienne risque de disparaître de l'Irak. Des 1,5 million de chrétiens habitant dans le pays en 1993, il n'en reste aujourd'hui qu'un peu plus de 200 000. Mais certains gardent espoir. le pasteur Fabet est en route vers son village d'origine, Karamlech. Son objectif, susciter une nouvelle vie au village. Il veut encourager les membres de sa paroisse à se joindre à lui pour retourner et oser un nouveau départ. Il souhaite que les chrétiens puissent y habiter à nouveau, très prochainement, et qu'un culte soit à nouveau célébré tous les dimanches.
L'espoir des gens est étroitement lié à la possibilité de reconstruire leur maison. Beaucoup de maisons ont besoin d'être réparées, d'autres doivent être entièrement reconstruites. Voir que c'est possible redonne de la force et du courage aux gens. Pour beaucoup, reconstruire est un projet bien trop grand et trop coûteux. À cause de leur fuite et de leur vie de réfugiés, ils n'ont plus d'argent. Ils n'y arrivent pas seuls, ils ont besoin d'aide.
Aujourd'hui, 250 familles de sa paroisse ont accepté de retourner à Karamlech. Il va donc presque tous les jours au village pour coordonner l'aide. Des débris doivent être débarrassés, des maisons réparées. On trouve fréquemment des explosifs et des munitions. Des questions administratives doivent être réglées. Pour l'instant, les ouvriers ont peu de possibilités de dormir sur place. Le ravitaillement y est également peu disponible. Mais le pasteur Fabet s'en occupe également. Il a demandé à ses paroissiens de l'aider à réparer en priorité une annexe de l'église. Celle-ci sera utilisée comme centre de coordination pour que Karamlech redevienne habitable. La vision de porte ouverte, dans une première phase, est de collaborer avec des pasteurs, comme le pasteur Fabet, pour faciliter le retour de 2000 familles chrétiennes dans la plaine de Ninive dans les 2 ans à venir. Le total du soutien prévu pour l'Irak est de 3,5 millions d'euros. Cette aide servira à reconstruire des maisons et à soutenir les pasteurs qui coordonnent la reconstruction. Le but est aussi de donner aux chrétiens une perspective d'avenir. Des jardins d'enfants et des écoles seront remis en état. Des cours de formation professionnelle seront proposés. Les victimes de traumatismes seront accompagnées et encouragées. Nous souhaitons fortifier l'Église afin qu'elle puisse être sel et lumière dans son environnement.
Nous vous demandons de nous aider par la prière et par un soutien financier. S'il vous plaît, aidez-nous à retourner chez nous.
C'est maintenant que de nombreux chrétiens décident s'ils doivent rester ou partir à l'étranger. Aidez-nous à redonner de l'espoir et un avenir aux chrétiens d'Irak. Vous trouverez des informations et des rapports de nos projets actuels sur notre site internet à l'adresse suivante.
Voilà, je propose que 2 personnes puissent simplement prier par rapport à cette réalité et ce besoin en Irak. Juste 2 personnes et on va terminer ainsi. Merci.
Merci Emmanuel. Ici, nous sommes un peu persécutés par les montres. Alors voilà, nous allons comme ça, mais je crois que ça fait partie du culte de procéder à cette offrande où nous sommes appelés à donner de nos biens, à donner de notre temps, et maintenant, pour l'instant, c'est de nos biens. Et nous allons chanter pendant ce temps d'offrande. Merci à l'équipe. C'est à toi qu'appartiennent toutes choses, Seigneur. Ce règne, ce puissance et la gloire, et nos corps, et nos vies, et nos porte-monnaies. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous pouvons, par ce simple geste aussi, manifester notre empathie, notre sympathie à tous ceux qui travaillent pour toi là où tu les as placés. Que cet argent puisse servir à l'avancement de ton règne, s'il te plaît. Amen. Voilà venir le temps des annonces. Merci à Michel. Peut-être juste avant, une annonce. Plusieurs m'ont posé des questions. Vous connaissez peut-être mon frère Philippe Chanson et Christiane, son épouse. Ils ont une fille qui s'appelle Caroline. Et Caroline il y a deux ans et demi, trois ans, eu un cancer grave. Et Caroline, dans sa 38e année, est décédée cette semaine. Voilà. Donc, c'est ma nièce, notre nièce, Akane Béatrice. Et je veux dire, tout ça, ça touche quand même relativement fort la famille. Nous avons prié plusieurs fois pour Caroline ici et en prière d'église. Dieu, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Caroline est décédée, laissant deux petits-enfants, et un mari, et etc. Une famille un peu bouleversée par tout ça. Simplement pour vous dire aussi que la sépulture, le moment de recueillement, le culte d'adieu, aura lieu donc mercredi qui vient, le 29, à 14h30, au centre œcuménique de Mérin, au CEPOM, là à côté. Voilà.
Que le Seigneur apporte sa consolation à toute la famille et à tous ceux qui sont proches particulièrement et touchés par cette absence, énorme absence. Pour ceux et celles qui le souhaitent, j'ai une quinzaine d'exemplaires. Certains d'entre vous les ont commandés lors de la retraite de l'Église. C'est dans un mois, un peu plus, il y aura un changement d'année et puis une parole de l'Ancien et du Nouveau Testament pour chaque jour de l'année. N'hésitez pas, venez me voir, je les ai là et je suis content si je n'ai pas besoin de refaire l'annonce. Donc tous ceux qui ont souhaité avoir un exemplaire, plus ceux qui en souhaitent un et qui ne sont pas annoncés, venez me trouver. Merci beaucoup. Il coûte 10 francs.
Voilà, alors priorité à Noël en plein vent. Johan, peut-être tu peux me rejoindre pour présenter cette action de témoignage au cœur du village.
Je vois que c'était mis dans les annonces, c'est très bien. Donc juste pour rappeler les dates du vendredi 15 et samedi 16 décembre pour Noël en plein vent. Hier soir, on a eu une première répétition où on s'est mis vraiment en condition avec le froid. C'était très bien et Thomas a bien dirigé les équipes pour la mise en scène. Donc c'était vraiment bien. Donc juste pour rappel, ça se passe sur la place du village. Vous voyez un petit peu, on avait fait un petit schéma à l'époque. Et puis on cherche encore pour l'accueil, sauf erreur, il y a encore besoin un peu de monde. Pour les acteurs, on est bon. On a trouvé nos différentes personnes. Donc principalement pour l'accueil. La prochaine répétition, c'est vendredi prochain. Thomas enverra un mail. Il n'y a peut-être pas forcément besoin qu'à chaque fois, notamment la chorale, soit présente parce que c'est préférable qu'ils répètent eux de leur côté et puis se joindront à nous pour éventuellement l'avant-dernière. Mais vous recevrez un mail de Thomas qui vous indiquera pour vendredi prochain. Voilà. Bon, ça c'était. Il n'y a plus besoin. Non, ça c'est bon. C'était une ancienne présentation. Donc c'est tout bon. Je crois que au niveau. Oui, alors les flyers, ils vont bientôt arriver. On a finalisé la dernière touche, donc ils seront envoyés à l'impression, et puis ensuite on pourra les distribuer. Voilà.
Voilà, on peut passer peut-être au PowerPoint des annonces, si tu le trouves. Sinon, j'y vais comme ça. Ah, voilà. Une autre annonce en relation avec le concert de Noël auquel participe comme récitant David Porter, samedi 9 et dimanche 10 décembre. C'est un concert pour lequel il vous faut acheter des billets et les billets, il faut vous dépêcher de les acheter parce que en général, c'est plein à craquer. Est-ce qu'il y a un petit... Normalement, il y avait un petit film de 10 secondes. Bon, il n'y est pas. Ok. Voilà, le but, c'est d'inviter vos voisins pour ce concert autour de Noël. David, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est bon. Voilà, les sujets de prière, que le Christ soit glorifié, que le Seigneur touche des cœurs, la santé de ceux qui préparent ce projet. En particulier, Flavius, c'est le directeur de... c'est la personne qui assure la direction de l'orchestre. Et vous voyez qu'il y a deux concerts à Genève et un concert le 7 décembre dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Et voilà le PowerPoint des annonces d'aujourd'hui. La première annonce, c'est vous remercier pour l'action Paquet de Noël. Ça a été un effort, on en a parlé beaucoup, mais merci, parce que 83 paquets ont été confectionnés. Merci pour vos dons matériels, en argent également, pour votre engagement, aussi bien pour la confection que pour le transport des paquets jusqu'au centre de collecte. Merci encore. Cette semaine, mardi 28, il y a la prière communautaire à 20h15 ici. Le jeudi, dans le cadre de nos relations entre l'église évangélique et la paroisse protestante de Mérin, les deux conseils se rencontrent. C'est deux fois par année, un moment de partage entre nos deux communautés. Vendredi, une répétition de Noël en plein vent. Et jeudi 3, le culte animé par le groupe de jeunes. Lors de ce culte, il n'y aura pas, bien que ce soit le premier culte du mois, il n'y a pas de repas canadien, parce que, et vous le verrez plus tard, nous avons déplacé le repas au 10 décembre. Voilà, une occasion de témoignage au cœur de la ville de Genève, un stand de Noël, vous voyez quatre dates possibles. Oui, volontiers, Jacques, je te laisse la parole. Tu es l'artisan de cette action.
Merci. Voilà, après ce qu'on a entendu de porte ouverte dans le monde, c'est difficile d'intervenir, mais je crois que la porte est ouverte ici pour la ville de Genève. Un tout petit historique, il y a plus de 25 ans, deux couples et un ami, on a décidé avec le Seigneur de pouvoir monter un stand dans les rues basses à Genève, un stand chrétien avec la vie, la Bible et plusieurs aussi traités. Au début, on avait une toute petite table, la moitié de celle-ci, et nous avons pu exposer donc devant H&M, maintenant donc dans les rues basses en face de la place du Mollard. On se mettait sous les verrières quand il y avait de la pluie ou du vent. Et d'année en année, on a augmenté la table, on a agrandi la table et nous avons pu acheter une tente que vous voyez là derrière. Cette tente nous protège de la pluie, du vent, protège aussi la littérature. Et nous avons la possibilité donc d'être quatre fois cette année pendant Noël dans les rues basses. J'aurai des flyers que je mettrai à la sortie. Pour ne pas rester ces deux couples et une personne, nous avons décidé d'élargir et nous avons pu contacter beaucoup de personnes de différentes églises. Le dernier stand que nous avons fait à Pâques, il y avait 7 églises différentes représentées. De même, l'église de Mérin était représentée par Dominique Swell. Pourquoi ces infos? Ben, on a entendu. Pour que nous puissions aussi ici dans la ville de Genève pouvoir nous éveiller, sortir de notre canapé et pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. Je ne vise pas les femmes des pasteurs particulièrement, je vise tout le monde. Que l'on soit vraiment exercé et que l'on puisse avec le Seigneur se dire, ben voilà, il y a quelque chose qui se fait, il y a d'autres choses bien entendu qui se font dans la ville de Genève, mais une chose qui se fait, annoncer l'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez simplement venir voir, vous pouvez simplement nous dire bonjour, ou bien vous occuper, si vous n'avez pas la possibilité d'annoncer l'évangile, s'occuper des boissons, parce qu'il y a des boissons que nous offrons, et c'est vraiment la possibilité d'offrir dans la ville de Genève un cadeau. Nous avons tous reçu un cadeau de Jésus et nous voulons transmettre ce cadeau à d'autres. Le message de l'Évangile. Juste pour terminer, On a parlé des musulmans. Alors j'ai une chose qui est un petit peu pénible, une chose qui est peut-être joyeuse, c'est que nous avons eu au stand un musulman qui est venu et qui a dit « Vous, vous faites pas d'enfants. Nous, on fait beaucoup d'enfants. On va envahir la Suisse et si vous vous convertissez pas comme musulman, alors... » Et la deuxième chose qui a été, que je peux vous dire sur les musulmans, c'est que nous avons eu au cours de ces nombreuses années beaucoup de musulmans qui se sont approchés et qui sont partis avec une Bible. J'aurai des flyers et puis ceux qui veulent vraiment participer, j'ai une liste où on peut prendre le nom de chacun.
Voilà, à l'intérieur de notre communauté, mardi 5 décembre, le fil d'argent. Notre groupe d'aînés se réunit pour un repas dès 11h30. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez les avoir auprès d'André Dufour ou de Marianne Pound. Mais c'est André qui est là aujourd'hui, hein, je crois. Voilà, vendredi 8 décembre, on vous informe de cette soirée avec la présence de l'auteur Marion Muller-Collard. Marion Muller-Collard est est aumônière, est pasteur et aumônière au HUG. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'autre Dieu » qui tourne autour de la maladie de son enfant et de l'épreuve. Qui est Dieu dans l'épreuve ? Voilà, on pourrait le formuler ainsi. Ce spectacle a été vu par Catherine Meyer qui le recommande à 200%, a-t-elle dit. Dimanche 10 décembre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le repas communautaire à la place d'un repas canadien, également pour marquer la première année de ministère à l'EM de Claude Bécher. Le culte sera déjà dans cet esprit-là. Et puis, juste après le repas, il y aura la répétition de Noël en plein vent où votre présence comme communauté est attendue parce qu'il nous faut en fait du public pour mettre en place, pour que les acteurs puissent mettre en place le spectacle. Ils auront besoin de public et nous serons leur premier public ce jour-là, entre la poire et le fromage, j'imagine. On vous demande pour ce repas de vous inscrire. Il y a des panneaux à l'extérieur, sur une petite table, en dessous du panneau d'affichage. Merci de vous inscrire pour qu'on puisse gérer les quantités pour la préparation. Information auprès d'Elisabeth ou auprès de Claire-Lise. Et puis, Noël en plein vent, 15 et 16 décembre, encore une demande pour la collation. On a besoin encore de biscuits de Noël. C'est donc la collation qui est offerte aux spectateurs hein, après qu'ils aient assisté au spectacle. On veut les recevoir d'une certaine manière, permettre aussi un échange. Alors, on a besoin de biscuits de Noël, on a besoin aussi d'aide pratique pour préparer la collation et pour servir lors des deux spectacles. Servir, c'est passer avec des assiettes, c'est être là. Et puis, on cherche des grands thermos à pompe. Si vous avez des grands thermos à pompe, voilà, on a besoin. Merci. Je crois qu'on est au bout des annonces, sauf erreur.
Je vais terminer le culte avec cette bénédiction finale tirée de Thessaloniciens 5 au verset 23 qui nous dit ceci, que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela car il est fidèle. Amen.